Bonjour, vous êtes sur Radio B, la radio des bonnes ondes, 90.0, dans l'émission Musique au pluriel, animée par Paul Turchet et Bruno Point. Dans une précédente émission, nous avons parlé du grand compositeur français du 19e siècle, à cheval sur le 20e, Camille Saint-Saëns. Camille Saint-Saëns, né en 1835 et mort en 1921. Aujourd'hui, nous allons parler essentiellement de César Franck, presque la même époque, né 10 ans plus tôt à Liège en 1822 et qui mourra à Paris en 1890, donc d'origine belge, mais qui a fait toute sa carrière musicale en France. Nous allons donc parler d'un contemporain de Camille Saint-Saëns, un autre grand compositeur, César Franck, ainsi que des musiciens de son temps, de son siècle. Nous concentrons essentiellement sur les musiciens français et sur quelques-uns de ses élèves. César Franck a écrit pour le piano, pour l'orchestre. Il a aussi écrit pour l'orgue et pour la musique religieuse qui seront l'objet d'une seconde émission. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur sa musique pour piano, sur sa musique de chambre et sa musique orchestrale. Commençons par une pièce pour piano qui s'intitule « Prélude, chorale et fugue ». César Franck a écrit 3 grandes pièces qui sont assez proches dans l'esprit et dans le jeu de l'orgue, bien qu'écrite pour le piano, qui s'intitule « Prélude, chorale et fugue »,« Prélude, aria et finale » et « Prélude, fugue et variation ». Vous voyez que nous sommes un peu dans la mystique de Bach. César Franck était très religieux, mais au-delà, je dirais, de sa religion, il a surtout démontré qu'il voulait écrire une musique très puissante, souvent intérieure, rarement futile, à l'image de sa vie. Commençons par le prélude chorale et fugue. Thank you.
César Franck naît le 10 décembre 1822 en Belgique, à Liège. Et il est l'une des grandes figures de la vie musicale française de la seconde partie du XIXe siècle. Il laisse 97 œuvres musicales et son influence a été déterminante dans le domaine de la musique de chambre, tout d'abord, dont il a été le rénovateur en introduisant le principe de la forme cyclique qui, par la résurgence des thèmes d'un mouvement à l'autre et leur superposition, assure une grande cohérence, une grande unité à la structure de la composition. C'est évidemment un pianiste surdoué, un musicien surdoué, virtuose, qui remporte à 12 ans les grands prix de solfège et de piano du Conservatoire de Liège. Et son père veut faire de lui un grand pianiste et organise toute une série de concerts un petit peu partout. La famille va quitter la Belgique pour s'installer à Paris et César devient à cette occasion l'élève d'Antoine Reichat, qui avait été notamment le professeur de Berlioz, de Liszt et de Gounod. Il entre au Conservatoire de Paris et remporte en 1838, donc à 16 ans, le premier prix de piano de manière extraordinaire, comme le relate la presse de l'époque. Et en délibération, notamment Cherubini, qui est le directeur du conservatoire, vient annoncer que le jury a décidé que M. Franck était hors ligne, dit-il. Personne ne doit partager avec lui un prix. On donnera un second prix à ceux qui auront mérité le prix ordinaire. Et ce qui a motivé ce grand prix d'honneur qu'on accorde à César Franck, qui concourt pour la première fois, c'est non seulement sa brillante exécution dont il déchiffre un morceau qui est imposé et qu'on doit jouer à première vue. C'est-à-dire que c'est un morceau qui est inconnu du candidat. Il doit le jouer, on lui pose la partition, et il doit le jouer à première vue. Non seulement il le joue à première vue magnifiquement, mais en plus il le transpose, alors qu'il est fait en si bémol, il le transpose en do, ce qui est, sur le plan intellectuel, absolument, effectivement, extraordinaire. Il obtiendra ensuite un prix de contrepoint, un prix d'orgue, et l'orgue, nous en reparlerons dans la seconde émission qui lui sera consacrée, sera sa grande œuvre, son grand instrument. Et il sera le fondateur, véritablement, d'une école française d'orgue. Franck se consacre à la composition, et en 1845, il rompt avec son père, qui veut toujours faire de lui en fait un grand pianiste virtuose. Il retourne à Paris où il restera où il y mourra plus tard d'un accident. Écoutons un extrait de la symphonie en ré, l'introduction du premier mouvement, symphonie dédiée à l'un de ses élèves qui est Duparc, symphonie très listienne et magnifiquement composée.
cette époque n'échappait pas aux tensions que l'on retrouve aujourd'hui. Il est difficile de parler aujourd'hui sans penser à ce qui se passe en Ukraine et aux sentiments nationalistes qui peuvent animer, et quand je dis nationaliste, c'est aux sentiments guerriers pour prétendre défendre une idée d'un pays tel que nous voyons que cela arrive aujourd'hui. Eh bien, cela existait évidemment de tout temps, et notamment au XIXe siècle. Et cette symphonie, pourquoi j'en parle ? Parce que cette symphonie que nous venons d'écouter a fait l'objet, à l'époque, d'une polémique, car elle regroupait, elle présentait les deux facettes d'écriture, il y en a d'autres, mais deux qui dominaient à l'époque, à savoir la musique germanique, qui faisait l'objet pour certains musiciens français d'une éviction, qui souhaitaient être presque franchouillards et écrire pour la France, et qui donc rejetaient la musique germanique. Mais César Franck, qui était lui un très grand musicien, et belge d'ailleurs, donc quelque part un peu européen, vivant en France, a fait lui le mix entre la grande écriture symphonique que l'on peut qualifier de germanique parce qu'on pense à Beethoven, et la musique française, si on se reporte à Berlioz, et qui a donc voulu imprimer un sentiment des méthodes, par exemple le fait que cette musique soit cyclique avec des mélodies que l'on retrouve tout au long de la symphonie. En cela, d'ailleurs, un autre grand européen, Liszt, avait une grande passion pour ce type d'écriture. Ce qui introduit l'œuvre suivante. L'œuvre suivante, c'est un poème symphonique. Poème symphonique écrit pour piano et orchestre, ce qui est relativement rare. En l'occurrence, César Franck, je l'ai dit, était un compositeur qu'on pourrait qualifier de sérieux, à savoir qu'il ne tombait pas dans la futilité. On lui avait demandé d'écrire un concerto pour piano. Il n'avait pas envie d'avoir un instrument soliste brillant. Il préférait privilégier la musique. Il a donc écrit un poème symphonique pour piano et orchestre, les djinns. Les djinns, c'est une légende. Les djinns, ce sont ces petits feux follets, ces petits monstres que l'on trouve dans les forêts. Car César Franck, comme Liszt d'ailleurs, a beaucoup écrit de poèmes symphoniques, c'est-à-dire qu'il s'appuyait sur une légende, sur un lieu, sur une histoire. Il avait besoin de trouver un support à sa musique et de raconter une histoire. Écoutons les djinns.
En 1845, donc, César Franck rompt en fait avec son père et reste à Paris où il passera le reste de sa vie. Il va composer un poème symphonique qui est très beau, très poétique, Ce qu'on entend sur la montagne. Il travaille à un opéra, le Valet de la Ferme. Il va ensuite être organiste à l'église de Notre-Dame de Lorette, à l'église Saint-Jean, Saint-François du Marais et surtout à la nouvelle église Sainte-Clotilde, où il inaugure en décembre 1859 un des plus beaux instruments du facteur d'orgue mondialement connu, Aristide Cavaillé-Coll. Il en restera le titulaire jusqu'à sa mort. Il est nommé professeur d'orgue au Conservatoire de Paris et pour obtenir ce poste, donc il devient citoyen français. Il va compter de très nombreux élèves, pratiquement une cinquantaine, dont certains seront de très grands compositeurs. Et la période qui va de 1874 jusqu'à sa mort est marquée par une activité extrêmement intense. Il compose des oratorios, des œuvres pour piano, un quatuor à cordes, un ballet, des poèmes, des variations symphoniques, bien sûr. Et puis, il compose surtout la sonate pour piano et violon, dont nous allons écouter le quatrième mouvement. C'est l'une des sonates, peut-être la sonate la plus connue, peut-être, de tout le répertoire pour piano et violon. Elle est assez immense, elle est chargée d'émotions, le piano et le violon entrent en communion, entrent en fusion, c'est une explosion sonore, c'est une symbiose sonore des deux instruments. Écoutons donc le quatrième mouvement. Thank you.
Après cette magnifique sonate, nous revenons à la forme pour orchestre symphonique et instrument soliste, en l'occurrence à nouveau le piano, avec les variations symphoniques. Déjà le titre indique que nous ne sommes pas dans un concerto, à l'image des djinns, je l'ai rappelé, César Franck ne souhaitait pas écrire des concertos qui mettent en valeur, ou tout au moins qui soient axé, centré sur la mise en valeur de l'instrument soliste. Il voulait que ce soit symphonique, en ce sens que le piano, certes important dans la partition, mais soit intégré à l'orchestre. Variation parce que, à nouveau, nous sommes dans le principe de la musique cyclique, c'est-à-dire un cycle, c'est la mélodie qui revient toujours, et là, en l'occurrence, sous la forme de variation. On peut presque dire que cette œuvre, bien que ce soit totalement différent, mais reflète aussi le principe qu'avait eu Schumann, que nous avons présenté dans de précédentes émissions, qui avait écrit un concerto où pareil, le piano est totalement inséré à l'orchestre. Et bien là, nous avons une œuvre qui ne cherche pas à faire briller le soliste, mais qui cherche à faire une fusion entre le piano et l'orchestre. Écoutons les variations symphoniques, tout au moins un bon extrait.
Thank you.
César Franck sera un immense pédagogue. Il sera vénéré, adulé de l'ensemble de ses élèves, car c'est un pédagogue très, très compréhensif, qui n'est pas autoritaire, qui laisse à ses élèves leur créativité et les encourage dans ce qu'ils ont de meilleur. On l'appellera, ses élèves l'appelleront le pater Seraphicus, le musicien séraphique. Parmi ses élèves, relevons la présence d'Ernest Chausson, né en janvier 1855 et mort à 44 ans d'un accident. Chausson compose des œuvres courtes, notamment des chansons, et des œuvres plus longues. Et puis il composera surtout un opéra, Le Roi Artus, qui est assez régulièrement joué dans le monde, mais c'est une partition qui lui demandera 7 ans de travail. Et vers la fin de l'année 1878, Chausson commence à suivre des leçons dans la classe de Jules Massenet, à qui nous avons consacré une émission, au Conservatoire de Paris, et c'est là qu'il va devenir l'élève de César Franck. Et parmi les compositions créées par Chausson, il y a ce qu'on appelle le poème, qui est en fait un concerto pour violon, mais qu'on appelle le poème pour orchestre et violon, qui est créé en 1897. Il est composé d'un seul mouvement, divisé en réalité en trois sections qui sont enchaînées, lento misterioso, animato et final. Il s'inspire pour cette œuvre d'une nouvelle de Tourguenieff, Le chant de l'amour triomphant, qui est un récit fantastique dans lequel une mélodie jouée au violon produit un envoûtement. Et Chausson a dédié cette œuvre au violoniste belge, grand virtuose, Eugène Isaï, qui va d'ailleurs la créer. Écoutons donc un extrait du poème.
après Ernest Chausson, un autre élève de César Franck, en l'occurrence Gabriel Pierné, qui n'est peut-être pas le musicien français le plus connu. Il y eut d'autres grands élèves de César Franck. Il y eut Vincent Dindy, qui était un très fin musicien, alors pour le coup extrêmement nationaliste, qui écrivait des musiques teintées presque de régionalisme, mais de merveilleuses musiques. Nous avons choisi Gabriel Pierné, qui a eu, lui, plutôt une grande carrière musicale effectuée à la direction d'orchestre. Il devient l'adjoint d'Édouard Colonne, sachant que les concerts Colonne étaient à l'époque une entité très importante et qui d'ailleurs perdure. Les concerts et l'orchestre Colonne ont traversé le XXe siècle. Et il a eu un rôle très important pour, je dirais presque imposer, nombre de ses contemporains et parmi les plus importants tels que Claude Debussy, Maurice Ravel, Roussel et même Stravinsky. Donc écoutons Pierné, qui avait la particularité d'avoir un style délicieux, une grande élégance et qui, je dirais, contrairement à César Franck, avait une musique qui est d'une grande finesse et emprunte assez souvent de légèreté, mais alors fait avec une qualité musicale magnifique. Écoutons une étude pour piano. Thank you.
Après Ernest Chausson, élève de César Franck, il faut s'intéresser à Duparc. Duparc qui est en fait, qui prend des cours de piano avec César Franck. Et César Franck, avec toute sa délicatesse, va lui faire comprendre qu'il ne sera jamais un grand pianiste virtuose, mais qu'il a en lui l'étoffe d'un compositeur. Il dira d'ailleurs de Duparc qu'il est le plus doué de ses élèves. Et Duparc va répondre un petit peu à l'appel du temps qui consiste à composer des mélodies, mélodies et paroles pour faire cesser un petit peu la dichotomie qui existe entre le discours libre de la musique et celui qui est chargé d'un sens précis, qui est le langage verbal. Et Henri Duparc va composer 17 mélodies qui sont décrites comme l'union parfaite de la mélodie et des paroles, avec un cycle qui s'achève en 1885, malheureusement parce que Duparc est atteint d'une maladie neurologique depuis plusieurs années et il ne peut plus composer. Duparc va d'ailleurs détruire un grand nombre de ses compositions. Et il va rester ces 17 mélodies, entre autres, d'une très belle facture, sensible, expressive, qui ont fait de lui un compositeur dans ce domaine tout à fait majeur de la fin du XIXe siècle. Avec une œuvre qui est peu importante, mais en quantité, mais importante en qualité, 28 œuvres. Écoutons par le grand baryton français Gérard Souzet, L'invitation au voyage, mélodie composée par Duparc sur le poème éponyme de Baudelaire.
Soleil couchant revêtent piano la vie entière.
Nous avons pu écouter au cours de cette émission les musiques orchestrales, les musiques pour piano, la musique de chambre, et nous avons terminé par, après le violon aussi, notamment de Chausson, nous avons terminé par une mélodie d'Henri Duparc. La prochaine émission sera consacrée à la musique d'orgue, car Paul l'a rappelé, César Franck a eu une activité très importante d'organiste titulaire et il était aussi très religieux et nous traiterons donc de la musique religieuse. Aujourd'hui, nous avons écouté le prélude du prélude chorale et fugue par Muret Peraya, un extrait du premier mouvement de la symphonie en ré par l'Orchestre National de France, les djinns joués par le merveilleux pianiste contemporain, jeune pianiste Bertrand Chamaillou, la sonate pour piano et violon par le duo mythique Argerich et Ivry Gitlis, puis les variations symphoniques toujours par Bertrand Chamaillou, ensuite le poème de Chausson avec au violon le très grand violoniste français Christian Ferras, et puis Gabriel Pierney, son étude de concert légère et virtuose par Arthur Judson. Et enfin, Duparc, l'invitation au voyage, une merveilleuse mélodie chantée par Gérard Souzet, accompagnée par Jacqueline Bonneau. À bientôt donc sur Radio B pour notre seconde émission, César Franck, l'orgue, la musique religieuse et ses élèves, et je dirais un petit peu plus loin, sa descendance jusqu'au XXe siècle. À bientôt.